Kiosque Magazine.
Jeudi 27 novembre, et vous écoutez donc Kiosque Magazine, qui, comme à tous les jeudis, vous parle d'économie et d'emploi. Et je commence tout de suite, tiens, ça, comme ça, sans plus attendre, en vous disant que le 22 novembre, le Canadien a blanchi les Bruins de Boston. Quel est le rapport avec l'économie et l'emploi? Aucun, mais ça me fait tellement de bien le répéter. Éric de Belval, bonjour.
Bonjour, François.
De quoi allons-nous parler dans la prochaine heure?
Vous avez sûrement remarqué que « autrement » est un des mots les plus importants du débat politique, et plus particulièrement de la campagne électorale. Hein, l'adversaire, c'est celui qui promet de faire autrement. Alors, traduisez pareillement, et puis souvent traduisez par pire. Mais peu importe, il faut alimenter le débat, travailler à des améliorations, et à des renouveaux. Et ceci passe forcément par la notion d'autrement. Le réalisme, c'est d'être bien conscient que ça ne marche pas à tous les coups, plutôt rarement, et qu'on ne saurait s'en passer. On verra les détails. Ensuite, on va reparler du système de santé, parce que c'est pas un peu l'un menant à l'autre, peut-être. Le système économique, et plus particulièrement le marché des biens, produit parfois des situations étranges. Par exemple, l'achat de médicaments par les hôpitaux dans le système de santé, s'il part évidemment d'une bonne intention, obtenir les prix les plus bas de la part de l'industrie en faisant jouer la concurrence, aboutit à créer une situation de pénurie. C'est peut-être une nouvelle façon insidieuse pour le marché de prouver qu'au final, concurrence ou pas, c'est lui qui impose sa loi, celle du profit et non le bénéfice du consommateur ou du client. Et puis on finira par un regard pas très gai. Vous nous avez beaucoup parlé il y a 2-3 semaines à la fois des enfants américains qui étaient à la rue, de l'interdiction de donner à manger aux pauvres dans certaines villes américaines, enfin un univers merveilleux. Bref, et bien figurez-vous que dans le rêve américain, on pense peut-être que c'est la Silicon Valley qui l'incarne le mieux. Passer du bricolage dans un garage à la domination numérique du monde en quelques décennies, est-ce que c'est pas l'absolu de ce rêve américain? Peut-être. Mais il y a l'envers du décor. Et encore une fois, vous nous avez cité des exemples pas très gais. Eh bien, vous verrez que dans la Silicon Valley, il y en a aussi, on s'en doutait pas.
Et de mon côté, j'ai pour vous des sujets où on traite énormément d'austérité cette semaine parce que c'était dans la presse, dans les médias, partout. Alors, on parle de coupures, mais est-ce que ces coupures sont justifiées et est-ce qu'elles sont uniformes? Ce sont mes deux premiers sujets. Et pour le troisième, j'hésite encore. Évidemment, je suis un irresponsable. Tout dépendant du temps qui nous restera, je vous parlerai de dépenses fédérales ou de pipelines. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. Eh oui, je vous le disais dans toute la presse, c'est fou, on en parlait partout, on coupe trop, on coupe pas assez. On pourrait dire rapidement, par exemple, que la commission Lucienne Robillard est payée 1 100 $ par jour pour déterminer où on doit couper, alors que Mme Robillard est quand même pas dans la misère avec sa pension. Ce jugement de valeur, je suis désolé de l'avoir formulé. Pardon, Mme Robillard. Donc, suggérait des coupes de 2,3 milliards, mais c'était la première étape de ces rapports. Des coupes tellement sévères qu'on a pensé sérieusement que ça consistait à faire peur pour rendre les coupes réelles du gouvernement tout à fait acceptables. D'ailleurs, son rapport a été critiqué par le ministre de l'Agriculture libérale, il faut le faire, Pierre Paradis, qui est quand même pas connu pour avoir gardé la langue dans sa poche. Pierre Paradis qui disait que Mme Robillard ne connaît pas l'agriculture et ne peut comme ça décider qu'on va couper 300 millions dans le programme de stabilisation des revenus agricoles, c'est ce qu'elle recommandait. Tout ceci pour dire que, bon, j'ai fouillé, je suis allé chercher des idées différentes parce que je me demandais, y a-t-il vraiment urgence de couper? Est-ce que c'est vraiment nécessaire et est-ce qu'on le fait bien? Or, Julia Posca, qui est une doctorante en sociologie à l'UQAM, mais qui est une chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, je le rappelle, l'IRIS, c'est un organisme, c'est peut-être l'organisme scientifique qui produit des rapports de gauche par rapport à tous les autres qui produisent des rapports à droite. Julia Posca pond un texte intitulé « L'austérité au temps de l'abondance » et ça a été publié le 25 novembre dans les pages du Devoir. À quelques jets de pierre du Colisée Pepsi, demeure des défunts nordiques de Québec, les ouvriers s'affairent sur le chantier du nouvel amphithéâtre de la ville. L'ouverture officielle de cet ouvrage de 400 millions de dollars est prévue pour le mois de septembre 2015. En attendant l'heureuse date, les fans de hockey de la capitale nationale rêvent d'attirer à nouveau une équipe de la Ligue nationale de hockey grâce à cette aréna financée à même les fonds publics provinciaux et municipaux. Bienvenue sous le règne de l'austérité à l'ère du gaspillage de masse. Toutes les dépenses sont permises, pourvu qu'il ne soit pas question de nous faire croire que la raison d'être du gouvernement est de répondre aux besoins de ses soi-disant commettants. Avant de me traiter de rabat-joie, sachez que mon intention n'est nullement de m'en prendre à notre illustre sport national. Je dirais plutôt ceci. L'État néolibéral n'est pas un État minceur, qui dépense prudemment comme seul un bon père de famille pourrait le faire. L'État néolibéral est plutôt celui qui donnait en 2011 à une compagnie représentée par un ancien conseiller politique du premier ministre de l'époque un contrat de 240 millions de dollars pour installer 40 000 indispensables tableaux blancs interactifs dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Pendant ce temps, à Montréal, des élèves étaient chassés de leur école de quartier par de vilaines moisissures ayant élu domicile dans les murs de leur établissement. La situation dure depuis 2 ans. Il serait tentant de se réconforter en pensant qu'au fond, il s'agit de mesures exceptionnelles justifiées par un contexte de crise économique prolongée. La réduction des services à la population est nécessaire, car il faut bien, comme le dit notre banquier de ministre des Finances, s'ajuster à la réalité. Les subventions au secteur privé, les allègements fiscaux, les crédits d'impôt, même la dilapidation de fonds publics pour financer des projets dont on ne saisit pas toujours la pertinence, tout cela est indispensable, car sinon, comment stimuler la croissance? C'est pour cette raison qu'en 2012, les conservateurs de Stephen Harper n'ont pas eu d'autre choix que de limiter l'accès à l'assurance-emploi, un programme conçu pour venir en aide aux travailleurs temporairement et involontairement privés de salaire. Voilà aussi sûrement ce qui les a obligés à fournir au secteur bancaire canadien, selon une étude du CCPA effectuée par David McDonald, une aide ponctuelle d'au moins 114 milliards de dollars. Sinon, comment les grandes banques du pays auraient-elles pu enregistrer des profits de l'ordre de 27 milliards de dollars entre le quatrième trimestre de 2008 et le deuxième trimestre de 2011, alors que sévissait la pire crise économique depuis les années 1930? Ni corruption, ni exception. L'austérité est depuis plus de 20 ans une doctrine structurante de l'action des gouvernements québécois et canadiens. Il y a, derrière l'enjeu du contrôle de la dette, quelque chose de plus que la simple réduction du train des dépenses de l'État. Il s'agit d'abord d'une manière de dire aux citoyens ordinaires, mieux connus de nos jours sous le nom de contribuables, « débrouille-toi ». D'ailleurs, je me demande c'est quoi un tribuable. Et il est fini le temps où les gouvernements prenaient la main de vos enfants pour les amener à l'école du quartier. Mais austérité, c'est aussi le nom de code qu'utilisent les politiciens responsables pour envoyer à la communauté des affaires un message clair. Ici, soyez-en certains, les investisseurs sont les bienvenus. Ici, on augmente les tarifs d'électricité pour monsieur et madame tout le monde parce qu'on ne peut pas dépenser au-dessus de nos moyens. Mais on la vend en rabais à Alcoa parce que c'est bon pour les vraies affaires. N'en déplaise aux adversaires du gouvernement, expression non consacrée, tout droit sortie de l'imagination fertile de Joanne Marcotte, militante au sein du réseau Liberté Québec, le modèle québécois contraste nettement avec leur fantasme d'un État gavant les citoyens de services gratuits. Au contraire, le gouvernement cherche à couper le cordon entre lui-même et les citoyens. Idéalement, il se contenterait d'être un fournisseur de services parmi d'autres pour une masse de consommateurs soucieux d'investir, tantôt dans leur santé, tantôt dans leur formation professionnelle. Quand l'austérité devient la solution à la présumée faillite qui guette le Québec, le citoyen consommateur qui en veut pour son argent apprend pour sa part à modérer ses attentes envers l'État et pousse un soupir de soulagement chaque fois que Moody's et Standard & Poor's confirme la cote de crédit du Québec. Ainsi, à travers sa passion pour la SAES, la classe politique québécoise cache bien mal le fait qu'elle se soit tournée vers un nouveau gourou, une nébuleuse appelée « Finance », et qui parle principalement à travers la voix diffuse des marchés et celle plus distinctive des agences de notation. Ce n'est qu'au prix de sa souveraineté qu'une communauté politique peut satisfaire ses entreprises formellement spécialisées dans l'évaluation financière, mais officieusement douées pour dicter à des gouvernements l'orientation à donner à leur politique budgétaire. Nos représentants choisissent leur camp et répètent ad nauseam qu'ils ne jurent que par le contrôle des dépenses publiques. Ce faisant, on ne semble plus s'émouvoir à l'idée que l'État est par ailleurs toujours prêt à délier les cordons de la bourse lorsque de grandes corporations, à la recherche d'un environnement d'affaires favorable, viennent cogner à sa porte. Or, aussi longtemps que la majorité silencieuse sera terrorisée par la question de l'équilibre entre les dépenses et les revenus, elle risquera moins de se préoccuper de savoir pourquoi on dépense et de quelle manière on garnit le trésor public. Pour l'heure, le lieu du pouvoir s'est déplacé et nous regardons le souverain partir au large au lieu de prendre d'assaut le bateau.
François, vous venez de nous décrire l'État comme une multinationale comme une autre.
Et tout à fait. On reste dans l'équilibre des comptes, cette fois-ci pour un texte de Thierry Haroun.
Absolument, dans le Devoir du 22 novembre. Et pour revenir sur cette notion de l'autrement que j'évoquais dans ma présentation, il ne faut pas s'imaginer que ça corresponde à une recette miracle à laquelle on n'avait pas encore pensé. Mais c'est souvent, de plus en plus souvent, un synonyme de choix et de choix entre finalement des solutions déjà connues. Alors je vous lis l'article de Thierry Haroun. Si le gouvernement du Québec a sa propre idée des mesures à prendre pour atteindre l'équilibre des finances publiques, la CSN et la FTQ ont également les leurs. Survol des pistes de solutions que proposent ces deux grandes centrales syndicales, avec à la clé un discours aux accents de solidarité sociale. À ceux qui proclament aujourd'hui que nous n'avons plus les moyens d'assurer le financement adéquat de nos services publics et de nos programmes sociaux, nous souhaitons dire que c'est d'abord une question de choix. Ceux des gouvernements successifs qui ont diminué les impôts, ceux qui ont abdiqué devant la recherche de nouveaux revenus, ceux qui ont baissé les bras devant le ralentissement économique. Nous exigeons du gouvernement qu'il fasse d'autres choix. Le gouvernement doit reporter son objectif sur le déficit zéro. La fiscalité n'est pas qu'une affaire d'argent. Elle est d'abord et avant tout l'expression de notre solidarité. Effectivement, c'est bien le rôle des syndicats en partie d'exprimer un choix de société, à côté d'être des partenaires de discussion dans des choix financiers. Et on manque bien de réflexion étatique sur le choix de société, malheureusement. Tels sont les mots qui concluent le mémoire présenté le mois dernier par la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, à la commission d'examen sur la fiscalité québécoise intitulée « Plaidoyer pour la solidarité ». En entrevue au Devoir, le trésorier de la centrale syndicale, Pierre Patry, en rajoute « Imposer des mesures d'austérité comme le fait présentement le gouvernement a des effets négatifs. On l'a vu en Grèce, au Portugal et en Espagne. » Je sais que tout à l'heure, vous allez nous mettre le Québec en perspective avec ces pays. Plutôt que de favoriser le développement économique, ça y met un frein. Écoutez, la reprise économique depuis la crise économique de 2007 et 2008 est lente. Il faut stimuler l'économie si on veut atteindre l'équilibre financier. Et ce n'est pas en sabrant les programmes publics qu'on va l'atteindre. Ah, c'est un keynésien qui parle, là,
oui,
j'ai l'impression.
Mais à ce chapitre-là, on remarquera que l'OCDE elle-même a signalé que les budgets de la France et de l'Italie, qui sont largement déficitaires et contre lesquels toute l'Europe actuellement gueule, sont des budgets bien fondés. Elle invite les autres pays d'Europe à faire la même chose, c'est-à-dire réinvestir quitte à faire un déficit.
Absolument. Et ça aussi, c'est une position keynésienne sur laquelle on pourrait discuter longuement. Par exemple, la CSN a proposé à Québec de revoir la déduction pour les options d'achat d'actions qui permet aux dirigeants d'entreprise de payer de l'impôt sur ce type de revenu à la moitié du taux d'opposition qui est exigé des revenus de travail. Ouais, on tombe de sa chaise là. Ou encore d'évaluer la possibilité d'instaurer un impôt minimum sur les successions. Tombe de son tabouret, là. L'impôt minimum sur les successions a déjà existé au Québec. Il a été aboli au début des années 80. Ça existe dans plusieurs pays d'Europe. Il existe des successions qui sont relativement importantes et ça pourrait rapporter beaucoup à l'État québécois. Une mesure, dit-il, qui toucherait le fameux 1% de la société qui s'est accaparé la richesse au Québec, comme partout dans le monde au cours des 30 dernières années. Et c'est vrai que l'imposition sur les successions, c'est le moyen majeur de redistribuer le patrimoine commun régulièrement et démocratiquement. Évaluer la possibilité d'imposer un impôt minimum pour les entreprises est aussi à l'ordre du jour de la CSN. Chaque année, plusieurs milliers d'entreprises déclarent un bénéfice net positif sans avoir été imposé. C'est sans compter les entreprises dont l'impôt effectivement payé est substantiellement inférieur au taux statutaire d'imposition. Ce phénomène s'explique par les déductions pour dividendes imposables qu'obtiennent certaines entreprises, notamment les plus grandes, ce qui se justifie si les dividendes proviennent d'une filiale qui a été dûment imposée sur son territoire. Alors là, on reconnaît toutes les composantes de l'optimisation fiscale largement commentées ici et dont on s'aperçoit qu'elles tentent trop de monde pour disparaître aujourd'hui. Bon, cela dit, qu'on la questionne, il finira peut-être bien par en sortir quelque chose. Quoi d'autre ? Réintroduire la taxe sur le capital pour les institutions financières, lutter contre les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, G20, tu m'entends là ? Et l'évitement fiscal agressif et reconsidérer l'application du taux d'imposition réduit pour les petites entreprises sont également au programme de la CSN. Vous devez adorer la CSN, hein, François, non ? Pierre Patry suggère aussi à Québec de prendre une pause sur le versement dans le fonds des générations et de verser les sommes ailleurs. Cela dit, je trouve que quand même c'est bien ce qu'ils annoncent là. Les milliards de dollars qu'ils annoncent, qu'ils recommandent, qui sont versés sont autant d'argent qui n'est pas versé dans les services publics et les programmes sociaux. On propose aussi au gouvernement de rendre l'impôt des particuliers plus progressif. On estime qu'on pourrait minimalement ajouter deux autres paliers d'imposition, soit un palier qui s'établirait à environ 137 000 dollars avec un taux plus élevé que les 25-75 pour ceux qui sont autour de 100 000 dollars et un autre qui viserait le 1% de la population et qui s'établirait à plus ou moins 175 000 dollars.
Avec ou sans service de garde additionnel?
Ça, on ne sait pas. Enfin, je vous rappelle quand même qu'en France, quand on dépasse l'équivalent de à peu près 150 000 dollars, on est imposé à 50%. À la FTQ, on a le même discours et pratiquement les mêmes solutions de rechange à proposer à Québec, soit entre autres de suspendre les versements au Fonds des générations. Ça, c'est un beau truc, le Fonds des générations. Moi, quand j'entends des mots comme ça, je suis vraiment prêt à donner tout ce qu'on me demanderait. Mais oui. Instaurer un impôt minimum pour les grandes entreprises, imposer à 100% les gains en capital, abolir le crédit d'impôt pour dividendes, rejeter toute hausse de tarification ou encore maintenir les crédits d'impôt pour les fonds de travailleurs. Nos finances par rapport à d'autres pays d'Europe ne vont pas si mal, malgré qu'il faille s'en préoccuper. Malgré que ce n'est pas français, je me précise. On n'a rien contre l'équilibre budgétaire. On pense qu'il faut l'atteindre, mais pas à la vitesse grand V comme le propose le gouvernement et qui met en péril nos programmes sociaux. Ça n'a pas de bon sens, rappelle le président de la centrale syndicale, Daniel Boyer, qui note dans le même temps qu'il y a deux colonnes dans le budget, la colonne des dépenses et la colonne des revenus. Oui, il faut assainir le volet des dépenses. Mais il faut aussi regarder la colonne des revenus. On pense qu'il y a des gens, soit les plus nantis de la société, qui devraient fournir un peu plus leur part d'effort.
Pay what I mean. Quem deixou me olhar assim? Não pedi minha permissão. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. We'll be right back.
C'était Tchéou, avec un texte dont on hésite encore sur le sens à lui donner. Alors, je préfère ne pas risquer une traduction. On reste dans l'austérité, mais cette fois dans la comparaison, puisque Éric Desrosiers, dans Le Devoir, a signé une analyse qui s'intitule, et le titre dit à peu près tout, « Le Québec n'est ni la Grèce ni le Portugal ». Oui, bon, je sais, c'est encore une opinion qui nous vient de l'IRIS. Si vous voulez une opinion conforme à ce qu'on attend en termes de coupure, eh bien, lisez Éric Faye dans Le Devoir. Il va tout vous expliquer. Pas Éric Faye, pardon. Comment il s'appelle? Faye. J'ai un trou. Bon, je retourne à mon texte. L'état de la dette publique québécoise présente encore trop de zones d'ombre compte tenu de l'importance qu'il revêt dans le débat politique actuel et se révèle somme toute bien moins alarmant que certains le prétendent, conclut l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Québec ne sait pas, et ça c'est important, Québec ne sait pas quelle proportion de sa dette est détenue par des étrangers et, pire encore, ne tient aucun compte final de la part qui lui vient des déficits budgétaires et celle qui lui vient de ses investissements dans les infrastructures, rapporte le groupe de recherche de gauche dans une analyse d'une trentaine de pages à être dévoilée mercredi. Bon, quand on bâtit une école, par exemple, on prévoit la dépense sur 20 ans. C'est un déficit dans l'année actuelle, mais on l'amortit sur 20 ans. Ces investissements-là, on ne les a pas ventilés dans le montant de notre dette. Ce sont pourtant des déficits qui sont normaux. Enfin, je continue. On a un portrait assez incomplet de l'endettement du Québec et je pense que le discours très noir qu'on entend actuellement à ce sujet se nourrit d'une méconnaissance de la réalité, a déclaré au Devoir mardi Simon Tremblay-Pépin, l'un des co-auteurs avec Francis Fortier de l'analyse. C'est un facteur important dont il faut tenir compte, bien sûr, mais on ne doit pas paniquer et croire que tout doit être remis en cause. On est loin de courir au désastre, comme d'aucuns le prétendent. Si l'on applique les méthodes de calcul de l'Organisation de coopération et de développement économique, qui tiennent entre autres compte des dettes du Québec, des municipalités et des universités, mais pas du déficit actuariel des régimes publics, la dette du Québec approcherait les 340 milliards en 2013. Une fois prise en compte la part de la dette fédérale qui lui revenait en fonction de son poids démographique, soit presque autant, 95%, que la valeur de la production de toute une année de son économie. Ce niveau d'endettement est légèrement inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE, des États-Unis ou du Royaume-Uni, et un peu plus que la moyenne canadienne, néerlandaise ou allemande. La comparaison se révèle plus favorable encore lorsqu'on tient compte de la valeur de ses actifs financiers et de la part de ceux du gouvernement fédéral. Son endettement net n'équivaut plus alors qu'à 35 % de son produit intérieur brut, ou 126 milliards, soit près de la moitié de la moyenne des pays de l'OCDE, et mieux que presque tous ses principaux membres, y compris le Canada. Je pense que ça vaut la peine de le considérer. Si on tient compte des actifs du gouvernement du Québec, ce qu'il pourrait vendre, par exemple Hydro-Québec ou la Société des alcools, ça ne veut pas dire qu'il doit les vendre, mais si on en tient compte, non pas comme simplement des dettes accumulées, mais bien comme une source éventuelle de revenus, on découvre que la dette, ben, on a une des plus basses en Occident. Mm-hmm. Cherchant à faire œuvre pédagogique, l'analyse de l'IRIS passe en revue les différentes façons de mesurer la dette. Elle rappelle que son poids dans l'économie était en recul constant depuis la politique de déficit zéro de la fin des années 90 jusqu'à la grande récession, après quoi elle a légèrement remonté. Elle cherche aussi à combler une des lacunes de statistiques officielles en faisant la part entre ce qu'on qualifie souvent de « bonne dette » qui vient des investissements dans les infrastructures, c'est comme le bon cholestérol, ça, comme les routes, les écoles, les hôpitaux, et la « mauvaise dette » faite de dépenses de programmes dépassant les revenus. Les chercheurs de l'IRIS ont calculé que depuis 1970, les deux tiers de la dette du gouvernement du Québec, ou 106 milliards, sont venus des investissements, contre 32 % ou 51 milliards en solde budgétaire négatif. Ils constatent également que, contrairement à Ottawa, Québec ne sait pas quelle part de sa dette est détenue au Québec. Ça aussi, c'est un chiffre très important, dans le reste du Canada ou encore à l'étranger. Ce que l'on sait, c'est qu'au moins 30 % de ses créanciers sont québécois, la moitié de ses montants étant dû à ses propres employés sous forme de régime de retraite et l'autre moitié étant détenue sous forme d'obligation par la Caisse de dépôt et placement du Québec. On estime généralement qu'entre 70 et 85 % de la dette publique au Canada est détenue par des Canadiens. Pour une rare fois, l'IRIS dit se rallier à l'Institut économique de Montréal, je pense que oui, c'est une très rare fois, un groupe de recherche de droite ainsi qu'à d'autres experts qui ont estimé que ces proportions sont probablement les mêmes au Québec. Par conséquent, La majeure partie de la dette québécoise et de ses intérêts est due à des Québécois et à des Canadiens, souligne l'IRIS dans son analyse. Et le Québec n'est pas exposé outre mesure aux pressions de créanciers étrangers, ce qui veut dire que les agences de notation, les avis de Standard & Poor's, ça a moins d'impact chez nous parce que justement la dette est québécoise. À en croire le discours ambiant, le problème de la dette au Québec s'approcherait de celui de la Grèce ou du Portugal. C'est du grand délire. C'est devenu un prétexte pour refuser toute nouvelle dépense et justifier toutes les compressions, a dénoncé Simon Tremblay-Pépin, qui disait finir tout juste d'écouter la dernière annonce du président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux. Le chercheur dit ne pas croire non plus que la situation se dégrade tellement avec le vieillissement de la population. Plutôt que de déprimer encore plus une économie déjà amorphe à coups de compression budgétaire et de contributions dérisoires au Fonds des générations, le gouvernement devrait chercher des moyens de relancer la croissance, plaide Simon Tremblay-Pépin, se référant aux leçons du passé. Ce n'est pas en remboursant la dette qu'on en réduira l'importance relative, c'est en s'assurant que l'économie croît plus vite que la dette, un autre point de vue.
Quelques brèves. On a eu la publication de l'indice des prix à la consommation pour les 12 derniers mois, ce qui se termine en octobre, et il est de 2,4%. Alors, c'est intéressant ce chiffre parce que si on regarde à quoi sont dus ces 2,4%, c'est l'alimentation et l'habitation. Alors c'est marrant parce que c'est en totale contradiction avec toutes les études qui expliquent que les prix des maisons sont en baisse.
Ce sont des choses totalement inutiles, s'alimenter et se loger, voyons. Cette semaine, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a lancé la mode. Gabriel Nadeau-Dubois qui a remis son prix de 25 000 $. Il a gagné un prix pour son livre, le prix du gouverneur général, ce qui, pour un souverainiste comme Gabriel Nadeau-Dubois, est ambigu. Alors, plutôt que de refuser simplement le prix, il l'a accepté. Il l'a remis à une campagne contre l'oléoduc NRJS, coule pas chez nous, le nom de la campagne, en mettant au défi la population de doubler sa mise, donc de porter le chiffre à 50 000 $. Eh bien, quand j'ai vérifié hier soir où en était la collecte, on était à 344 477 $ ramassés, ce qui prouve bien que les 70 % de Québécois qui s'opposent aux pipelines, ben, sont prêts à faire une contribution.
Ouvrez vos portefeuilles. Quelques nouvelles d'Uber qui est en forte croissance. On en a beaucoup parlé ici. Eh bien, ça continue de se développer.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Deuxième partie de cette émission et on commence immédiatement, sans plus attendre. Vous ai-je dit que le Canadien avait blanchi les Bruins la semaine dernière?
C'est marrant parce que je ne sais toujours pas de quoi vous parlez, mais bon, je vais me documenter.
OK, alors soignons-nous, mais oui. Payons-nous plus cher et écoutez, avons-nous tout ce qu'il faut.
Justement, on connaît les défauts du système de santé au pays. Ils sont nombreux. Hein. À bien des égards, se faire soigner au Québec relève d'un parcours du combattant dont certains pays du tiers-monde se sortent mieux. Alors, il a aussi ses avantages pour ceux qui arrivent à se faire admettre à l'hôpital. Par exemple, bénéficier de médicaments gratuits. Mais la pénurie guette, et c'est ce qui a intéressé Baptiste Ricard Châtelain dans Le Soleil du 23 novembre. Le sacro-saint système d'appel d'offres qui oblige de donner le contrat au plus bas soumissionnaire favorise les pénuries de médicaments dans les hôpitaux, observe, et pas n'importe qui, le vérificateur général du Québec. Donc la santé est un univers qui rejoint celui de la pépine quand il est question des effets pervers des appels d'offres censés justement favoriser la concurrence. Il y a un mois, l'Institut canadien des économistes en construction a d'ailleurs prévenu la commission d'enquête sur l'industrie de la construction des limites de ce modèle. Il favorise les entourloupes et donne la victoire à celui qui réduit le plus les prix, sans égard à la qualité de son produit. Voilà un bon corollaire pour Mme Charbonneau.
C'est inquiétant dans le monde des médicaments, ça. Sans égard à la qualité.
Oui. Il y a toutefois une différence notable. Dans le monde du médicament, en fin de compte, ce n'est pas seulement le contribuable qui risque de se vider les poches pour assumer le surcoût. Il y a aussi le patient qui risque de payer de sa santé. Bon, le patient, c'est jamais qu'un contribuable qui change de trottoir. au groupe d'approvisionnement en commun de l'Est du Québec, ce qui s'appelle le GASEC, on essaie justement de briser le modèle. On a identifié les médicaments qui ne sont plus sous brevet, mais qui sont vendus par un seul fournisseur au Canada. C'est décrit par le pharmacien-chef adjoint du Centre hospitalier universitaire de Québec, Patrick Boudreau. Donc, pour ces produits risqués, on essaie de forcer la concurrence en lançant un appel d'offres pour un contrat qui sera accordé à deux entreprises compétitrices. On voit déjà comment les taux se resserrent. Une bonne pratique, selon le vérificateur général Michel Sanson. Mais à toutes les fois qu'ils veulent faire ça, ça prend une dérogation du Conseil du Trésor. Administrativement, c'est un peu lourd. Ça prend une dérogation du Conseil du Trésor pour scinder l'appel d'offres en deux. Les établissements du réseau québécois de la santé commandent chacun environ de 1500 à 3500 médicaments différents, parfois plus. Il est illusoire de penser qu'on pourra enrayer les ruptures d'approvisionnement pour tous ces traitements, avertit le vérificateur général. Il est question de santé, mais aussi d'argent. En 2012-2013, les établissements du réseau de la santé québécois ont décaissé 639 millions de dollars pour des médicaments, apprend-on dans le plus récent rapport annuel de Michel Sanson déposé à l'Assemblée nationale. À ce prix, chacun se paie un imposant arsenal de molécules. Dans d'autres pays, il y a des pénalités importantes si le fournisseur n'est plus capable de fournir le médicament. Exemple, aux États-Unis, ils ont des amendes très très importantes lorsqu'un fabricant n'est plus capable de fournir un médicament. Si un fabricant fournit des médicaments au Québec et aux États-Unis. S'il tombe en pénurie, aux États-Unis, il a une amende de 10 000 $ par semaine, alors qu'au Québec, au Canada, il n'y a pas de pénalité.
Donc le premier client servi.
Mais voilà, c'est ça. S'il y a un choix à faire, qui vous pensez qui va être favorisé? Nos voisins du Sud, comme les cousins outre-Atlantique, ont également légiféré afin d'obliger les pharmaceutiques à avertir le réseau de la santé 6 mois avant d'arrêter la production d'une molécule. Assez pour trouver un substitut. Les établissements du réseau de la santé conservent parfois des quantités minimales de médicaments, une façon d'économiser qui les expose aux pénuries. Dans certains centres de santé et hôpitaux visités par l'équipe du vérificateur général, les pharmacies ne peuvent tenir qu'entre 5 jours et quelques semaines sans être approvisionnées. Je fais une parenthèse, c'est gentil de dire que chez les cousins outre-Atlantique, ça se passe mieux, c'est certainement vrai. Il ne faut pas oublier non plus qu'on dépense 800 milliards de dollars annuels pour la sécurité sociale. Donc là-dedans, le poste médicament ne va pas peser très lourd.
Qui est déficitaire et qui ne couvre pas tout le monde.
En France, si, il y a la couverture médicale universelle. Il n'y a absolument personne qui est, même si vous n'avez aucun revenu, vous pouvez être soigné gratuitement dans les hôpitaux. Il faut qu'on trouve une solution et qu'on s'assure, surtout pour les médicaments critiques, que les établissements ont un stock suffisant pour répondre aux besoins des patients. Un médicament critique, c'est celui qui n'est produit que par un seul fournisseur, ou encore l'autre qui est irremplaçable par un substitut, et bien sûr celui qui est essentiel à la survie. Dans tous les cas, la santé des patients est en jeu. Il y a un risque important. Le ministère de la Santé vient de pérenniser un comité de crise à l'origine temporaire. L'objectif, les choses qui sont à l'origine temporaire, bon, enfin bref. L'objectif, faire face aux problèmes croissants des pénuries de médicaments. Ce comité avait été mis en place en 2012. Cette année-là, plus de 1000 médicaments étaient en rupture d'approvisionnement. Un sommet attribuable à l'entreprise Sandoz, son usine de Boucherville, avait interrompu la production après avoir échoué à une inspection et subi un incendie. Donc le comité de crise est maintenant permanent. Mais ça sert à quoi, un comité de partenaires? D'être avisé rapidement lorsque des problèmes d'approvisionnement surviennent, de relayer l'information efficacement et promptement au réseau, de mettre en commun la recherche de solutions et la négociation avec des fournisseurs alternatifs lorsque c'est le cas, et ainsi diminuer les impacts des problèmes d'approvisionnement. Le ministère de la Santé souligne cependant que l'encadrement législatif de la production des médicaments est une compétence fédérale. Au Canada, aucune exigence légale n'oblige les fabricants de médicaments à maintenir un approvisionnement adéquat de leurs produits sur le marché, ajoute Madame Lacasse. Là, je trouve qu'il y a un vide quand même au niveau de la responsabilité de l'État un peu criant. Depuis 2011, la ministre fédérale de la Santé informe l'industrie qu'elle doit divulguer au public les pénuries de médicaments. Bon sang, c'est pas au public qu'elle doit les divulguer, c'est... au ministère de la Santé, il me semble, non? Écrit la conseillère principale Relations avec les médias, Maryse Durette. Santé Canada a aussi rappelé plusieurs fois à l'industrie de divulguer au public les pénuries de médicaments et a récemment envoyé à deux entreprises des lettres publiques où il souligne le manque de notification en temps opportun et répète qu'il s'attend à ce qu'elle divulgue en temps opportun toute pénurie de médicaments. On dirait vraiment, c'est pas bien, c'est pas gentil ce que vous avez fait. Oh là 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 là, au coin.
Le même qu'on utilise pour le transport ferroviaire, on ne punit pas, on dit, dites-le nous, exprimez-vous.
Oui, c'est vraiment bon. Et depuis 2012, il y a un comité réunissant les gouvernements, l'industrie et les groupes d'achat de médicaments des établissements de santé. On a rédigé un protocole pour la divulgation et la communication des pénuries de médicaments. On examine aussi les causes de ces pénuries et les solutions. Bon, d'accord, on examine, on rapporte, on discute et on ne fait rien. Je trouve quand même que là, tout le monde baisse un peu rapidement les bras.
Allez, je vous emmène dans un autre monde, un monde où il n'y a pas tellement de dépenses et tellement plus d'argent. Je vous emmène à Ottawa. Pourquoi Ottawa? Parce que Manon Cornelier, toujours dans Le Devoir, signe un texte très, très, très intéressant qui s'intitule « Ces coupes qu'on nous cache ». Et il faut savoir que Ottawa ne dépense pas tout l'argent qui est budgété. Bon, on pourrait dire tant mieux, bravo, on n'en a pas eu besoin, magnifique. Eh bien, on va découvrir que ce n'est pas vraiment le cas et que finalement, c'est peut-être une forme de coupe insidieuse. Depuis 2006, 1,3 milliard de dollars destinés aux services aux anciens combattants n'ont pas été utilisés, servant plutôt à éponger le déficit. Ces chiffres ne sont pas une invention de l'opposition. Ce sont des données contenues dans une réponse écrite du gouvernement à une question écrite d'un député, l'un des mécanismes à la disposition des parlementaires pour obtenir de l'information, et dans les comptes publics de cet automne. Les conservateurs répètent que le budget pour les services aux anciens combattants a augmenté depuis qu'ils sont au pouvoir. C'est vrai. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que certaines années, entre 4,7 et 8,2 des fonds alloués par le Parlement n'ont pas été utilisés. En 2013-2014, ce sont 167 millions de dollars qui sont restés dans les coffres, soit environ 4,5. Il n'y a rien d'anormal à ce que les ministères ne dépensent pas tous les fonds qu'on leur accorde. Il y a toujours des contrats qui n'ont pu être conclus à temps, une subvention reportée de quelques mois, un programme qui tarde à démarrer. Une partie de ces fonds est même souvent conservée pour l'année suivante. Dans le cas des anciens combattants, cette pratique a toutefois quelque chose de choquant, car ils sont nombreux à se plaindre depuis des années de l'insuffisance des services qui leur sont offerts, en particulier en santé mentale. Depuis 2002, plus de soldats et d'anciens combattants se sont suicidés qu'il y en a qui sont morts en Afghanistan. La frustration est telle qu'un groupe d'anciens militaires s'est formé pour faire campagne contre les conservateurs lors des prochaines élections. Ce phénomène des crédits inutilisés s'est aussi accentué sous les conservateurs. L'an dernier, le directeur parlementaire du budget relevait que le montant ainsi périmé augmente régulièrement depuis 10 ans et il a atteint un sommet de 11,2 milliards de dollars, 12,1 des autorisations budgétaires, c'est énorme, en 2010-2011. Le ministère des Finances en convenait dans la mise à jour économique et financière de l'automne 2013 et disait prévoir une diminution graduelle de ces fonds inutilisés pour revenir au niveau observé sous les libéraux en 2018-2019. Les crédits inutilisés atteignaient environ 5 milliards par année à la fin du règne libéral. Leur valeur est passée à 6 milliards en 2006-2007 pour bondir et atteindre plus de 11 milliards en 2010-2011. En 2012-2013, 8,9 milliards sont restés dans les coffres, soit 9% de tous les crédits accordés aux ministères et organismes fédéraux cette année-là. Dans un rapport publié cet automne, le directeur parlementaire du budget note une légère baisse en 2013-2014, mais le pourcentage de crédits inutilisés est toujours supérieur à la moyenne historique. Au total, c'est environ 7,3 milliards, ou un peu moins de 8% des 94,7 milliards en crédits budgétaires votés qui n'ont pas été dépensés. Cela est inquiétant, pardon, parce qu'en ces temps de compression budgétaire, on croirait que les ministères ne peuvent se priver des sommes mises à leur disposition. Alors, quel programme ou service a-t-on grignoté en douce pour faire ces économies? On l'ignore. Encore une fois, les élus votent des budgets pour n'apprendre qu'après coup qu'ils ne sont pas utilisés et sans qu'on leur dise qui a écopé. Il ne faut pas oublier non plus que ces crédits inutilisés s'ajoutent à des compressions qui généreront environ 14 milliards en économies annuelles récurrentes cette année et les suivantes, selon le dernier budget. Là encore, on n'a aucun portrait d'ensemble des effets de ces réductions de budget. Le gouvernement n'ayant toujours pas répondu à toutes les demandes d'information du directeur parlementaire du budget à ce sujet. Pour avoir une idée d'ensemble, il y a toujours les volumineux et tarabiscotés comptes publics où on peut trouver les crédits budgétaires votés par le Parlement, c'est-à-dire ceux qui servent au fonctionnement des ministères et au financement des services, programmes et subventions. Ceux qui font déjà l'objet de compression. Les autres crédits, dits législatifs, sont accordés automatiquement une fois la loi pertinente adoptée, comme c'est le cas avec les transferts aux provinces et aux particuliers. Ce qui nous intéresse ici, par conséquent, ce sont les crédits votés. Et voici ce qu'on découvre. Au ministère des Affaires autochtones, ce sont 712,4 millions, ou 8,3% de ces crédits qui n'ont pas été utilisés en 2013-2014. Et je fais un aparté ici pour dire que le gouvernement fédéral se plaint actuellement du peu de reddition de comptes que les populations autochtones lui font, alors que lui-même ne rend aucun compte de ses dépenses et garde dans sa poche autant d'argent. Au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, ce sont 157,6 millions, soit 12,5%. À Citoyenneté et Immigration Canada, avec tous les retards qu'on connaît dans la gestion de leurs dossiers, 107,8 millions, 6,3%. À Emploi et Développement social, 207 millions, c'est 4,5%. À Environnement Canada, 98 millions. À Pêche et Océans, 173 millions. Au ministère de la Sécurité publique, on parle de 572 millions. À Transport Canada, 375 millions. Mais où et quoi a-t-on sabré pour en arriver là? Les anciens combattants ont raison d'être furieux, mais ils ne sont que la pointe de l'iceberg. Peut-être que davantage de gens le sauraient s'ils connaissaient l'impact réel de ces économies. Mais pour cela, il faudrait un gouvernement prêt à mettre carte sur table. Je trouve cet extrait très intéressant parce que, oui, on a des députés qui votent des budgets. C'est une instruction du Parlement, la loi sur le budget. Et un gouvernement qui, finalement, fait un peu ce qu'il veut en ne dépensant pas l'argent en question.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles.
Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 la.
Impossible de ne pas reconnaître la voix d'Aznavour, cette voix qui tremble et qui nous chantait « Emmenez-moi ».
Eh bien, d'autres tremblements,
oui,
François.
Où nous amenait-il en Amérique, pensez-vous?
Ben, je ne sais pas, peut-être que c'était encore un rêve et le rêve, c'est l'envers du réel. Comme n'importe quel espoir, c'est une illusion stérile. Le réel, lui, c'est souvent un cauchemar. Alors, on l'attend aussi d'ailleurs. À chaque coin de rue en Somalie ou dans les bidonvilles de Rio, mais on ne l'attend pas dans la Silicon Valley. Et pourtant, il y est. Ça a intéressé un journaliste du Nouvel Observateur, Doan Bui, et elle a intitulé son article « Silicon Valley versus Misère Valley, les laissés pour compte de Google and Co. » « This is America », semble dire la bannière étoilée ondulant dans la brise automnale, plantée tout en haut d'un arbre. Ça vous rappelle votre rue, peut-être, non? Perché dans les cimes, une espèce de cabane en bois, la demeure, la plus luxueuse de The Jungle, l'un des plus gros camps de SDF. SDF, c'est même chose qu'itinérant. Mm-hmm. Des États-Unis, située à San José, dans la richissime Silicon Valley. Elle a été construite par Troy, ex-charpentier, qui s'est retrouvé dans la rue il y a 2 ans. Elle est vide depuis 2 mois. Il paraît que Troy a trouvé un logement. Il reviendra peut-être. On revient toujours dans la jungle. Le camp ressemble à la vision apocalyptique et désolée d'un monde après destruction atomique, tout droit sorti d'un roman de science-fiction. C'est un immense bidonville de tentes à même le sol, poussiéreux et sale. Plusieurs centaines de personnes vivent dans cette zone d'environ 25 hectares, qui s'est considérablement étendue ces 2 dernières années. Il faut slalomer entre des montagnes de déchets s'accumulant entre les arbres. Les chiens aboient. Parfois, un pied sort d'une tente, on voit un corps allongé sur un matelas par terre. Des silhouettes fantomatiques traînent dans les allées des chariots, rempli de briques et de brocs. Ce n'était pas tellement l'idée que je me faisais de la civilisation numérique. Bon. This is America. À 15 minutes, en prenant la mythique route 101, la 101, on arrive à Mountain View, autant dire Google City. L'entreprise qui, dit-on, façonne notre futur et dont la devise est « Don't be evil », ne soyez pas malveillant. À Mountain View, on tourne la tête et Google est partout, sur tous les immeubles, comme le mystérieux mot « ubique » dans le roman de Philippe K. Dick. Voilà le Googleplex, le campus principal. Tous les gens semblent sortis d'un dépliant publicitaire. Ils sont jeunes, beaux, leurs dents sont blanches, bien soignées. Les dents, c'est la frontière entre les have et les have not, ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. À Googleplex, tout est gratuit. Cafétéria avec nourriture bio, cours d'ukulélé, piscine, terrain de basket, hein, jouer de l'ukulélé dans une piscine. De sorte qu'on a rarement besoin de sortir. Google, c'est finalement un peu comme la jungle, on n'en part jamais. La compagnie est connue pour outrageusement bien payer ses salariés. Vient alors nous gifler cette image, dans un effet kaléidoscopique vertigineux. Les vélos. Google a mis des vélos gratuits à la disposition de ses salariés dans tout Mountain View, aux couleurs de l'entreprise, bleu, rouge, jaune, vert. Et toute la journée, on assiste au balai incessant des cyclistes. Dans la Silicon Valley, les millionnaires et les miséreux vivent les uns côte à côte, sans jamais se croiser, mais ils ont un point commun, les deux roues. This is America. Le long de la route 101 s'égrènent les noms prestigieux. Google, Apple, Facebook, Yahoo, eBay. Les 150 entreprises les plus grosses de la vallée pèsent en bourse 2 419 milliards de dollars, à peu près le PNB de la France. Depuis 2 ans, la folie a gagné à nouveau ce petit bout de Californie où les milliards semblent tomber du ciel comme dans le dessin animé « Tempête de boulettes géantes ». WhatsApp et ses 30 salariés se sont fait racheter presque 20 milliards de dollars par Facebook. Airbnb vaut désormais plus qu'Accor. La Silicon Valley compterait une cinquantaine de milliardaires et une dizaine de milliers de millionnaires. Et de plus en plus de pauvres aussi. Depuis 2 ans, le nombre de homeless a grimpé de 8%. Oui, quand je disais SDF, j'aurais dû signaler ce que ça signifiait. Mm-hmm. Ça veut dire sans domicile fixe. L'un des plus mauvais chiffres enregistrés aux États-Unis. Autour de San José, il y a une soixantaine de camps de sans-abri cachés derrière les échangeurs d'autoroutes, sans compter les SDF qui dorment dans leur voiture, chassés de leur appartement par la hausse des loyers. Depuis 3 ans, l'immobilier a explosé. Le loyer moyen à Palo Alto est de 2 600 $ par mois. Les libéraux vantaient l'effet trickle-down, c'est-à-dire ruissellement, de la croissance, l'argent des riches boostant l'économie et donc bénéficiant aux plus pauvres. Ben, vous devez adorer ce schéma mythique, François. Allez, je vous donne un point, là, j'y crois pas non plus.
C'est le rêve américain.
Oui. Dans la Silicon Valley, le ruissellement a été radioactif, rayant progressivement la classe moyenne de la carte et aspirant les plus fragiles vers le fond. C'est l'application grandeur nature du best-seller de l'économiste Piketty, Le Capital au XXIe siècle, sur l'explosion des inégalités et l'émergence d'une classe de super cadres, oligarchie dominante dans un peuple de gueux. Retour à l'ancien régime, il y a peu, un entrepreneur de la tech qui venait de vendre sa start-up 1 milliard de dollars à Microsoft a fêté ses 40 ans avec Fast. Le thème de cette somptueuse soirée coutumée où le rappeur Snoop Dogg, excusez-moi, je ne le connais pas, était convié, tenez-vous bien parce que ça, il faut l'entendre. Le thème de la soirée, vous savez ce que c'était ? Qu'il mange de la brioche, la célèbre phrase de Marie-Antoinette, qu'elle n'a jamais prononcée d'ailleurs, mais peu importe, en tout cas.
Effectivement.
Voilà. Mm-hmm. Alors à Caen, en 1789, comme les carrosses autant jadis, les bus Google, ces bus qui transportent les riches salariés de Facebook ou Google de San Francisco vers la banlieue de la Silicon Valley, se font désormais caillasser par les activistes du mouvement Occupy.
C'est-à-dire qu'on leur jette des pierres, c'est une expression française.
Oui, tout à fait. Oui. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas pensé à la traduire. On caillasse beaucoup en France en plus. Car depuis quelques années, les techies ne jurent plus que par la ville de Kerouac et des hippies. Twitter, Airbnb ou Uber se sont installés dans le quartier South of Market. Et même ceux qui travaillent le long de la route 101 préfèrent faire le trajet et vivre dans la capitale, en particulier dans Mission District, un beau nom, le quartier jadis populaire où Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a acheté un pied-à-terre pour la modique somme de 10 millions de dollars, en plus de sa maison princière à Palo Alto, au cœur de la Silicon Valley. Les loyers ont explosé et les évictions se sont multipliées. Reste une autre population d'autochtones plus encombrante, celle des SDF, nombreux, trop nombreux. Cette autre société, HandUp, les aide à mieux se vendre pour eux aussi, comme une start-up, lever des fonds auprès des internautes. La Manche 2.0, c'est pas une blague.
C'est tordu, hein.
Sur le site, parce qu'il y a un site, vous pouvez consulter une galerie de photos de pauvres à aider, classées par catégorie. Les familles, les vétérans de guerre, les malades. À chacun de se présenter avec le meilleur storytelling possible. C'est à vomir.
Bon, tout je m'arrête là parce que... on a déjà parlé à cette émission. Je pense que c'est un des textes que vous aviez amené sur la situation du logement à San Francisco, puisqu'il n'y a à peu près pas de législation sociale protégeant le prix du logement. Les gens qui n'ont pas les moyens de suivre le rythme de la Silicon Valley, qui ne sont pas dans ce miracle-là, se retrouvent de fait complètement exclus. C'est assez dramatique. Quelques nouvelles du marché de l'emploi où l'Institut de la statistique du Québec signale, et c'est peut-être le contre-pied d'une impression qu'on a et qui est largement répandue, l'emploi atypique n'est pas en hausse au Québec. Par emploi atypique, on entend toutes sortes d'emplois qui ne sont pas des emplois à temps plein, 40 heures par semaine, ou 35 ou 37,5, ça dépend toujours des emplois. Par exemple, les emplois à temps partiel, les gens qui travaillent à la maison, les gens qui ont des charges plutôt que des travaux. Eh bien non, c'est pas en augmentation, c'est même plutôt stable depuis 15 ans.
Quelques nouvelles du livre électronique. Vous savez que c'est une menace et à la fois un progrès, donc il faut regarder dans quel sens on va. Eh bien, un juge américain a validé vendredi un accord amiable par lequel Apple s'engage à payer 450 millions de dollars de compensation à des clients pour avoir pris part à une conspiration d'entente illégale sur les prix des livres électroniques. Donc ce qui est intéressant, c'est ce concept d'entente illégale qui, j'espère, fera jurisprudence. Parce que tout ce qu'on fait pour protéger le livre, qu'il soit électronique ou pas, c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu.
Fiscalité des entreprises, on en parlait en début d'émission. La Banque mondiale fait un classement chaque année des meilleurs environnements fiscaux pour les entreprises. Ça nous donne un palmarès impressionnant. Où le Canada, cette année, s'est classé, attendez bien, 9e, c'est-à-dire que c'est au Canada, le 9e pays où une entreprise a le moins d'impôts ou de paperasse à remplir pour payer de l'impôt chaque année. C'est, sans dire long, sur l'espace fiscal qui demeure actuellement. On est très, très en avance sur les États-Unis là-dessus, ou en avance ou en retard, ça dépend du point de vue.
Des nouvelles d'un petit pays qui fait la guerre contre les forages pétroliers, c'est assez amusant. Ben, c'est quoi ce pays? C'est les Canaries. Et la colère gronde aux Canaries contre la société pétrolière espagnole Repsol, qui a commencé à sonder les fonds marins au large des côtes d'un archipel, évidemment, pour chercher du pétrole. Eh bien, tout le monde a essayé de faire stopper ce projet localement, y compris le gouvernement. Ça a l'air d'être une petite guerre dans laquelle Greenpeace s'est engagé. Il faut suivre cette affaire, elle est importante.
Canary, Barcelone, même combat. Vous ai-je dit que le Canadien avait blanchi les Bruins le 22 novembre dernier? Non, oui, peut-être, enfin. Mais toujours est-il que je vous parle de la, valeur du boursière du Canadien. En fait, le Canadien qui a été acheté 633 millions de dollars par notamment un groupe qui comprenait notamment les Molson vaut maintenant 1 milliard de dollars. Il a passé cette barrière symbolique cette année. C'est le troisième club de la Ligue nationale qui vaut le plus cher derrière les Maple Leafs et les Rangers de New York. À eux trois, d'ailleurs, ces trois clubs-là génèrent 47 % des revenus de la Ligue.
Je vous signale une nouvelle alerte lancée par les autorités à propos de hackers. Des milliers de comptes ont à nouveau été piratés dans l'environnement public à Ottawa et ailleurs. C'est un groupe de hackers qu'on appelle Debt Trolling. Donc c'est une nouvelle incitation à changer vos mots de passe. On ne le dira jamais assez.
En Europe, il y a des parlementaires du Parlement européen qui ont déposé un projet de loi interdisant à un moteur de recherche de vendre d'autres services, donc de favoriser finalement ses propres services par rapport à d'autres. Évidemment, ça n'a aucune chance de passer puisque l'initiative des projets de loi appartient à la Commission et non pas au Parlement. Enfin, c'est déjà tout. Une heure s'est déjà écoulée. Mon Dieu, que ça passe vite. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On remercie Rémi Hermoso à la mise en onde et aux choix musicaux. Vous avez mes salutations, François Brodeur. Je réalise que je ne m'étais pas présenté en début d'émission. Et celle d'Éric de Belleval. Merci et
bonne
à la semaine prochaine.
Au revoir.